de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer entre autres. Plus de 4000 citoyens américains évacués d'Afghanistan. La COVID-19 en Australie atteint un record, l'hôpital de Sydney sous pression. Aider Brunei à faire face à COVID-19, la communauté indonésienne distribue des dons. L'aide en attente à l'Afghanistan fait face à une crise humanitaire. L'ancien ministre malais de l'éducation propose un conseil au nouveau gouvernement. L'économie indonésienne au 12e trimestre a progressé au-delà de la Corée du Sud et du Vietnam. Et l'Indonésie se classe 6e au monde pour la mise en œuvre de la vaccination, a affirmé le ministre de la Santé. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Plus de 4000 citoyens américains évacués d'Afghanistan. Les États-Unis ont évacué plus de 4000 détenteurs de passeports américains ainsi que leurs familles d'Afghanistan depuis la mi-août. Rapporté par l'AFP mercredi 25 août 2021, un autre responsable du département d'État a déclaré que son parti estime que ce nombre devrait continuer à augmenter dans les prochains jours. Il a déclaré qu'il continuait de contacter les Américains qui s'étaient déjà enregistrés auprès de l'ambassade de Kaboul pour déterminer s'ils étaient ou pas toujours en Afghanistan et pour les aider à évacuer s'ils voulaient partir. La COVID-19 en Australie atteint un record, l'hôpital de Sydney sous pression. Les cas quotidiens de COVID-19 à Sydney ont atteint mercredi un nouveau record qui a mis à rude épreuve certaines parties du système de santé de la ville. Le gouvernement australien travaille à accélérer les vaccinations pour aider à réduire le nombre de personnes hospitalisées. Malgré 2 mois de confinement, l'État de Nouvelle-Galles du Sud a signalé 919 nouveaux cas au milieu d'une pandémie généralisée de la variante Delta. Les chiffres supplémentaires ont apporté les cas quotidiens de l'Australie à un accord pendant la pandémie, avec un chiffre approchant les 1000. Au total, 113 personnes en Nouvelle-Galles du Sud sont désormais en soins intensifs, dont 98 n'ont pas été vaccinées. L'agent de santé en chef Kerry Chan a déclaré que l'Australie était confrontée à une troisième vague de pandémie de coronavirus. Aidée Brunei à faire face à COVID, la communauté indonésienne distribue des dons. La communauté indonésienne du Brunei Darussalam a remis son aide au ministère de la Santé du Brunei pour qu'elle soit utilisée dans les efforts pour faire face à la pandémie de COVID-19. L'ambassadeur indonésien au Brunei Darussalam, Sujat Miko, ainsi que le président de l'association communautaire indonésienne, Muhyiddin Umar, ont représenté mercredi le peuple indonésien au Brunei, transmettant symboliquement l'assistance au bureau du ministère de la Santé du Brunei Darussalam. C'est selon les informations de l'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan reçues par Antara Jakarta mercredi 25 août. L'assistance fournie était sous forme d'équipement médical d'une valeur d'environ 5 millions de roupies. En outre, des dons en espèces d'une valeur de plus de 100 millions de roupies ont été remis par deux hommes d'affaires indonésiens du Brunei Darussalam au Brunei COVID-19 Relief Fund. L'ambassadeur Sujat Miko a déclaré que des dons sous forme de masques, de désinfectants pour les mains, d'équipements de protection individuelle, de matelas, de chaises et de plusieurs autres équipements avaient été rassemblés en peu de temps par la famille élargie de l'ambassade d'Indonésie et le peuple indonésien au Brunei Darussalam. Selon Sujat Miko, faire face à la pandémie COVID-19 nécessite une coopération et une solidarité forte. L'aide en attente, l'Afghanistan fait face à une crise humanitaire. Les pays voisins de l'Afghanistan doivent ouvrir leurs frontières terrestres pour permettre à davantage de personnes de quitter le pays. C'est ce qu'a déclaré mercredi un diplomate anonyme d'un État membre de l'OTAN. Les agences humanitaires ont précédemment mis en garde contre une crise humanitaire en Afghanistan, désormais sous le contrôle des talibans. L'Iran, le Pakistan et le Tadjikistan devraient attirer davantage de personnes par voie terrestre ou aérienne. Les routes importantes sont utilisées immédiatement. Le diplomate basé à Kaboul a déclaré que le risque de famine, de maladie et de persécution augmente pour les millions de personnes qui restent en Afghanistan après la fin du chaos de l'exode à l'aéroport de Kaboul. Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a déclaré que son gouvernement s'est forcé de terminer l'évacuation le 31 août, mais il reste ouvert à une prolongation du délai. L'ancien ministre malais de l'Éducation propose un conseil au nouveau gouvernement. L'ancien ministre malais de l'Éducation, qui est également membre du Parlement libre, Mazlé Malik, a proposé un nouveau gouvernement, le Conseil d'éducation pendant et après la COVID-19 comme solution pour la Malaisie. Le conseil présenté par l'ancien ministre de l'Éducation à l'époque du premier ministre Mahathir Mohamad a été transmis à un certain nombre de médias et diffusé en direct sur les réseaux sociaux à Kuala Lumpur mercredi. Il a déclaré que l'éducation devrait être au centre des préoccupations pour assurer un avenir meilleur pour le pays. Ce qui est plus difficile, selon Mazli, est l'éducation post-COVID-19 dont la communauté a besoin. Il a déclaré que le plan d'éducation post-pandémie doit être holistique et complet en tenant compte de la nécessité d'une grande réinitialisation de l'éducation et des programmes pour l'avenir de la nation et de l'État. L'économie indonésienne au 12e trimestre a progressé au-delà de la Corée du Sud et du Vietnam. Le ministre coordinateur de l'économie de la République d'Indonésie, Erlangga Hartanto, a déclaré que l'économie indonésienne s'était améliorée au milieu de la pandémie de COVID-19 avec la réalisation d'une croissance économique de 7,07% sur une base annuelle ou bien un glissement annuel au deuxième trimestre de 2021, ce qui a dépassé la croissance d'un certain nombre de pays tels que le Vietnam et la Corée du Sud, C'est ce qu'a déclaré le ministre Erlanger tantôt lors du sommet HSBC cité par Antara à Jakarta mercredi. Le ministre Erlanger a comparé la croissance économique de l'Indonésie à celle de la Corée du Sud qui a augmenté de 5,9% et du Vietnam qui a augmenté de 6,6% au deuxième trimestre 2021. Il a déclaré que les efforts du gouvernement indonésien pour supprimer la propagation de COVID-19 étaient la clé principale pour accélérer la reprise économique au deuxième trimestre de 2021. En outre, le ministre coordinateur Erlanger a déclaré que la demande intérieure augmentait également à mesure que les activités industrielles se rétablissaient progressivement avec une production accrue. Cela fait augmenter les investissements au deuxième trimestre de 2021 de 7,54%, un glissement annuel. L'Indonésie se classe sixième au monde pour la mise en œuvre de la vaccination, a affirmé le ministre de la Santé. L'Indonésie se classe au sixième rang au monde en termes de participation communautaire au programme de vaccination contre la COVID-19 derrière la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil et le Japon, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé de la République d'Indonésie, Budi Gunadi Sadikin, lors d'une audition avec la commission 9 du Parlement indonésien qui a été surveillée virtuellement depuis Jakarta mercredi. Selon Budi Gunadi, le taux de vaccination en Indonésie mercredi après-midi atteint plus de 58 millions de personnes, tandis que sur la base de nombre d'injections administrées au public, a déclaré Budi, l'Indonésie est en septième position dans le monde derrière la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, le Japon et l'Allemagne. Mon cher auditeur, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Thank you. 16 rythmes, bonsoir. Voici le commentaire. Et pour le titre, l'apprentissage en face à face au milieu de la pandémie de COVID-19. La pandémie de COVID-19 a un impact majeur sur la mise en œuvre de l'éducation dans le monde, y compris en Indonésie. Afin de prévenir la propagation du virus parmi les étudiants, les enseignants et le personnel éducatif, les activités d'apprentissage sont menées en ligne ou connues sous le nom de l'enseignement à distance ou PJJ. La mise en œuvre du PJJ pendant la pandémie a contribué à assurer la continuité du processus d'apprentissage. Cependant, à présent, non, on ne sait pas encore quand cette pandémie prendra fin. Pendant ce temps, PJJ a causé plusieurs impacts négatifs. L'un d'eux est le déclin des acquis d'apprentissage qui se produit non seulement en Indonésie, mais aussi dans de nombreux pays du monde. L'étude a révélé que l'apprentissage en face à face entraînait une meilleure réussite scolaire par rapport à l'apprentissage à distance. Un autre impact de PJJ est l'émergence de nouveaux problèmes sociaux, tels que la violence domestique contre les enfants. De plus, la majorité des élèves éprouvent des difficultés à mettre en œuvre de l'enseignement à distance ou PJJ. Les résultats de l'enquête PJJ pendant la pandémie menée par le Centre de recherche sur les politiques du ministère de l'Éducation et de la Culture en 2021 ont montré qu'il était difficile de se concentrer et les réseaux Internet limités étaient les plus gros obstacles pour les élèves pendant PJJ. Compte tenu de l'impact négatif de PJJ, de nombreux parents ainsi que des élèves attendent que l'apprentissage en face à face soit autorisé par le gouvernement. Surtout en ce moment, les règles de PPKM niveau 3, dont l'une est d'autoriser l'apprentissage limité en face à face. Le président Joko Widodo, lors d'un examen des vaccinations contre la COVID-19 pour les étudiants à Madiun jeudi, cité par Merdeka.com, a déclaré qu'il autoriserait l'apprentissage en face à face s'il était vacciné. Alors, comment les écoles ont-elles réagi jusqu'à présent? Selon les données du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, jusqu'à 63% des écoles indonésiennes ont été en mesure d'effectuer un apprentissage en face à face limité. Sur le total de 63% qui ont été autorisés à faire un apprentissage limité en face à face, seulement 26% des écoles ont fait l'apprentissage en face à face. La plupart est limitée par les permis du gouvernement local. Il y a encore beaucoup de gouvernements locaux qui hésitent à donner des permis même si la zone est déjà au niveau 3. La réticence du gouvernement local à autoriser l'apprentissage en face à face pourrait être due au principe de précaution. Après tout, chaque région a des conditions différentes. Les gouvernements locaux doivent comprendre quand l'apprentissage en face à face dans leur région est autorisé. Peut-être que le gouvernement local est réticent à autoriser l'apprentissage en face à face, car il y a encore beaucoup d'étudiants dans la région qui n'ont pas été vaccinés. Quelle que soit la raison, les gouvernements locaux doivent faire des efforts pour que l'apprentissage en face à face puisse être mis en œuvre immédiatement avec le déclin de la mise en œuvre des restrictions d'activité communautaire ou PPKM du niveau 4 au niveau 3. Parce que l'apprentissage en face à face se fait pour que l'impact négatif de l'enseignement à distance ou PJJ sur les élèves et les enseignants ne se produise plus. Pour 26% des écoles qui ont organisé un apprentissage en face à face, elles sont censées suivre les instructions établies et appliquer les protocoles de santé de manière très disciplinée. Le nombre d'élèves dans chaque classe doit être limité. Pour assurer la discipline des élèves et des enseignants dans la mise en œuvre des protocoles sanitaires, une supervision stricte de la part du gouvernement local doit être effectuée. Serge Zulitor, c'était le commentaire pour ce soir. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 26 août 1920, la Journée américaine de l'égalité des femmes. La Journée de l'égalité des femmes a été commémorée pour la première fois le 26 août 1920. Cette célébration commémore la première fois que la Constitution des États-Unis a permis aux gens de voter pour des candidats. Cette journée est commémorée comme un tournant dans l'histoire de la lutte des femmes pour l'égalité aux États-Unis. Avant 1920, il y avait eu 72 ans de campagne pour l'égalité des droits et des traitements des femmes aux États-Unis. Cependant, ce mouvement n'a pas été vraiment répondu. Ce mouvement encourage enfin les femmes du monde entier à se battre et à revendiquer des droits et l'égalité dans la société de leur pays. L'autre information est sur la 7e semaine nationale du sport. PON a commencé à se tenir à Surabaya le 26 août 1969. La 7e semaine nationale du sport a eu lieu à Surabaya dans l'Est de Java du 26 août au 6 septembre 1969. Son événement sportif comportait 13 sports. Jakarta est devenue la championne du classement général avec 102 médailles d'or, 69 d'argent et 40 de bronze. Chers auditeurs, on termine l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 26 août 1994. Un homme a eu le premier cœur bionique. Un homme a reçu le premier cœur à pile au monde lors d'une opération pionnière au Royaume-Uni. Le patient, un homme anonyme de 62 ans, est originaire du sud de l'Angleterre. Son âge ne reste que de quelques mois. Les médecins lui ont offert l'opportunité d'essayer un dispositif en titane et en plastique fabriqué en Amérique appelé Left Ventricular Assist Device ou LVAD. Le 26 août 1994, une pompe cardiaque a été installée avec succès chez le patient. De plus, le dispositif a été utilisé avec succès chez plus de 200 patients pour les maintenir en vie jusqu'à ce qu'un cœur donné soit disponible. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
City in the night, looking for the spotlights to shine, shining down on so bright. Driving my ride through the city in the night, everything is good and alright. We're gonna party till the morning light.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir, voici Mon Indonésie et pour le titre, il existe encore de nombreux biens marins indonésiens qui n'ont pas encore été étudiés. La chercheuse du Centre de la bio-industrie marine de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, Wilisio Rayu, a déclaré qu'il était nécessaire de préserver la diversité de la vie marine à Lombok afin qu'elle puisse être utilisée de manière durable. La diversité des espèces de biotes marins à Lombok est très élevée, de sorte que toutes les parties doivent maintenir sa durabilité et étudier ses utilisations pour l'homme. C'est ce qu'a déclaré le professeur de recherche Dwi lors du webinaire sur la biodiversité et la richesse de la biodiversité marine sur l'île de Lombok, organisé par le Centre de bio-industrie marine de LIPI, mardi à Jakarta. Il a déclaré que le Centre de la bio-industrie marine avait mené plusieurs études pour enregistrer le biote marin dans les eaux côtières de l'île de Lombok. L'un des biotes marins étudiés est la diversité des crustacés brachiures ou crabes et des crustacés anomora ou bernard l'ermite. Les crustacés sont des biotes marins qui ont la deuxième plus grande richesse en espèces après les mollusques et occupent divers écosystèmes, à la fois littoraux et la mer profonde. Dulistio a expliqué, bien que la plupart des crustacés comestibles aient été identifiés, les différents types de crustacés qui jouent un rôle très important dans l'équilibre écologique de la nature nécessitent toujours une attention particulière. Le lauréat du 19e prix de Sakono de LIPI a déclaré qu'il y avait environ 500 espèces de crabes trouvées dans les eaux indonésiennes, tandis que le type de bernard l'ermite, il existe environ 300 espèces. Dans les eaux de Lombok à ce jour, seulement environ 150 espèces ont été enregistrées, parce que les eaux de Lombok ont différents types d'écosystèmes. Selon lui, les résultats des recherches sur la diversité des espèces de crustacés sont encore très minimes. Il existe encore de nombreux types de crustacés à Lombok qui attendent d'être découverts et recherchés. Il a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires sur la diversité du biote marin, non seulement des crustacés, mais aussi d'autres biotes marins. Les données obtenues serviront de base à la poursuite de la gestion des ressources marines. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Saja buat aku memikirkan dirimu. matamu, bibirmu, membuatku tak bertahan.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Bonsoir, chers auditeurs, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Cette fois, nous vous introduisons le vêtement traditionnel de Lampung. Le président Joko Widodo a devenu l'inspecteur de la cérémonie de commémoration de la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie au Palais d'État de Jakarta le 17 août 2021. Lors de la cérémonie, il portait des vêtements traditionnels Pepadun de Lampung. Les vêtements traditionnels portés sont dominés par les couleurs rouge et blanche. Le président a également épinglé une écharpe rouge avec le même motif que le sarong. À la taille du président, il y avait une ceinture rouge avec des accessoires de cercle de couleur or. Il portait également un bandeau rouge avec un motif jaune. Pendant ce temps, le vice-président Ma'ruf Amin était présent, vêtu de vêtements traditionnels sundanais bleu. Les vêtements traditionnels de Lampung sont connus sous le nom de vêtements tulang bawang. Les vêtements tulang bawang sont généralement portés lors de certains événements tels que les mariages. Les vêtements tulang bawang sont divisés en Lampung Pepadun et Lampung Sobatin. La différence frappante entre les deux vêtements traditionnels est la dominance de la couleur dans laquelle Lampung Pepadun est plus identique au blanc. Tandis que Lampung Sobatin est rouge, fondamentalement il existe plusieurs composants principaux des vêtements traditionnels de Lampung portés par les hommes et les femmes. Pour les hommes, ce vêtement traditionnel se compose d'une chemise à manches longues, d'un pantalon, d'un sarong tumpal, d'un sesapuran et d'un khikat arrière. Chers auditeurs, le point principal du vêtement traditionnel de Lampung est le tumpal de sarong qui est un tissu typique de Lampung tissé avec du fil d'or. Sur les vêtements portés par le président Joko Widodo, il y a un sarong rouge avec une décoration en fil d'or. Ensuite, il y a aussi le khikat arrière ou le foulard bouzour. Cette écharpe est drapée sur les épaules pour couvrir les épaules. En plus des composants principaux, il existe également des accessoires de support qui sont généralement utilisés. Il s'agit d'un collier de fruits jakum, d'un collier papanjalar, d'un selempang pinang, de devis bracelet et de ceintures équipées d'un poignard. Ce vêtement traditionnel Pepadun de Lampung a une très belle signification philosophique. Les vêtements avec une prédominance de couleur blanche représentent la nature de la sagesse, de la propreté et de la pureté. La couleur blanche est également mentionnée comme un symbole que les habitants de Lampung sont civilisés et obéissants aux normes religieuses. Ensuite, la couleur dorée de ses vêtements traditionnels montre la force et la prière pour l'abondance de nourriture. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « Le vêtement traditionnel de Lampung ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance! Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Musa Ingens, le plus grand bananier du monde. Le plus grand bananier du monde se trouve en Indonésie, précisément dans le mont Afak, en Papouasie-Occidentale. Son nom latin est Musa Ingens. Dans la langue locale, les habitants du village de Banford, dans la région de Tambro, en Papouasie-Occidentale, appellent cette banane géante par le nom de Dowin ou Apit Sepo. La hauteur de la tige du bananier atteint 24 jusqu'à 30 mètres, soit 6 jusqu'à 7 fois le bananier en général. Le diamètre du bananier Musa Ingens atteint 95 cm. Le diamètre du tronc peut atteindre 1 mètre jusqu'à 2 mètres. Alors que la nervure médiane a une longueur jusqu'à 5 mètres, avec une largeur d'environ 1 mètre. Cette banane géante est largement utilisée par les habitants locaux. La nervure médiane est utilisée pour stocker le gibier ou les produits du jardin. Pendant ce temps, les feuilles de bananier sont utilisées pour les toits des maisons d'urgence dans la forêt, des tapis de sieste et des tapis de nourriture. La population locale n'aime pas ce type de banane parce qu'elle a un goût fat et contient de nombreuses graines. D'habitude, les oiseaux de paradis mangent les bananes. Cité de indonesia.go.id, ce bananier géant a été collecté pour la première fois en tant que spécimen par Wamersley J.S. et Simons N.W. le 22 décembre 1954 en Nouvelle-Guinée. Ce bananier est assez rare parce que le processus de culture est très long. Il faut un an pour faire pousser des pousses d'arbres à partir d'une seule graine. La banane a des fruits atteignant 20 cm de long et 4 jusqu'à 6 cm de diamètre. Un régime de banane peut peser jusqu'à 60 kg. Alors que la taille de régime de banane en général a un diamètre d'environ 35 jusqu'à 50 cm, une longueur de 70 jusqu'à 80 cm. La couleur de la peau de la banane est verte lorsqu'elle est jeune et jaunâtre à maturité. Le fruit a également beaucoup de graines avec une taille plus grande ou la même qu'une banane en général. Le bananier Musa Ingens est l'une des plantes endémiques de Papouasie qui jusqu'à présent n'a été trouvée que dans les montagnes d'Arfak en Papouasie-Occidentale. L'un des endroits où se trouvent ces bananes est le village de Kwau, district de Mokwam, la région de Manokwari, qui borde la région des montagnes Arfak. Le bananier existe uniquement sur l'île de Papouasie, y compris Manokwari, la réserve naturelle des montagnes d'Arfak, Kaimana, la baie de Wondama et Fakfak, la réserve naturelle du centre de Fakfak. Également dans le district de Yapen, réserve naturelle du centre de Yapen, et dans le district de Tambraw, Banfot et Isium Muara Kali Erin. D'habitude, ces bananes géantes poussent dans la forêt secondaire. Ce type de banane pousse en grappe ou séparément. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson de Yana Julio. Chers auditeurs, l'une des chansons popularisées par Yana Julio, intitulée Selamanya Cinta, qui est sortie en 1995. Cette chanson est le pilier d'un album intitulé Selamanya Cinta. En 2007, le groupe de musique de Cinnamon a réarrangé Selamanya Cinta pour la bande originale du film Cinta Puccino. Selamanya Cinta raconte l'histoire de quelqu'un qui est incapable d'exprimer son amour et son désir ardent pour son idole, ce qui le rend agité. En fait, s'il est capable de s'exprimer, il est sûr de pouvoir aimer sincèrement son idole pour toujours. Bon, chers auditeurs, voici Ana Julio va chanter une chanson intitulée Selamanya Cinta. En français, aimer pour toujours. Bonne écoute.
Selamanya sibuk ragu datang memaksaku. Rindu semakin menyerang. Kalaulah aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.